On est prêt?
Oui, mon lieutenant.
Alors, à l'attaque!
Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans la deuxième saison de La Tactique. Si vous vous rappelez bien, la saison dernière, on avait terminé avec les choses qui nous dérangeaient. On avait reçu Julien lors de l'émission, on avait parlé du démantèlement de la SNCF et de ce qu'on pourrait appeler privatisation. Là, on s'était dit que pour commencer le mois de septembre, pour rester dans un sujet similaire, on voulait parler du problème des transports de Reims, et je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais la gestion des transports de notre communauté va changer, et pour ça, aujourd'hui, on accueille Jérôme et Raphaël pour en discuter. Jérôme, tu veux te présenter, et Raphaël ensuite, après on pourra démarrer l'émission.
Ouais, bonjour, hein. Moi Jérôme Briot, je suis secrétaire du syndicat CGT au transport urbain de Reims. Depuis maintenant une quinzaine d'années, ça fait à peu près 30 ans que je suis dans l'entreprise.
D'accord, ok.
Et moi donc je suis Raphaël, je suis ici pour représenter le Parti communiste et je suis secrétaire fédéral des jeunes communistes de la Marne.
Alors pour les téléspectateurs, avec Raphaël on s'est rencontré à un concert d'Iggy Pop et en fait la première chose qu'on a discuté après le concert, c'est justement le problème des transports de Reims et que ça pourrait bien te faire une émission. Parce que, dans mes souvenirs, Raphaël, tu faisais partie du moment de contestation à l'époque.
Bah, tout à fait. De toute manière, à chaque fois que la Citura et la CGT, l'intersyndicale, a fait des mouvements de grève, nous, à chaque fois, avec le Parti communiste, on les a suivis. Parce que leurs revendications, déjà, sur leur emploi et garder leur statut... Leur statut actuel, du coup, sont menacés par le nouveau contrat. Et en plus, nous, on avait la revendication politique derrière, qui est aussi soutenue par la CGT, de demander une gestion publique du réseau pour que chaque euro dépensé dans le transport aille au transport.
D'accord. Comme ça, nos auditeurs et auditrices savent tous pourquoi on est tous là. Donc voilà, après, il y a Cécile et Sylvaine qui sont là.
Bonjour.
Bonjour.
Par quoi peut-on commencer? Du coup, il y a un an et demi, il y a eu pas mal de protestations et de grèves. Il y a eu des mouvements ponctuels et des mouvements plus réguliers dans les lignes de bus de Reims. Je pense que la majorité des usagers n'ont pas compris pourquoi. Et donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer, grosso modo, qu'est-ce qui va se passer avec les transports de Reims?
Oui, très, très rapidement. Alors, pour revenir en arrière, nos grèves de l'année dernière, qui ont commencé en septembre, donc ça fait tout juste un an, à raison pratiquement d'une journée de grève par mois pour en arriver jusqu'au mois de juin, étaient basées essentiellement sur ce qu'on peut appeler l'utilisation de l'argent public. C'est-à-dire que les transports urbains à Reims étaient gérés et sont toujours gérés par un opérateur privé, c'est-à-dire un transporteur privé, qui aujourd'hui Transdev, et au niveau national, il y a trois opérateurs français, RATP, via sa filiale donc de l'EPIC, RATP, et DEV d'ailleurs. Il y a aussi bien entendu le groupe Keolis qui est présent sur le territoire national avec son actionnaire majoritaire qui est la SNCF, et le groupe Transdev qui est sur Reims, avec son actionnaire majoritaire qui est la Caisse des dépôts et consignations, quand même qui est le bras armé de l'État en matière financière.
D'accord.
Donc l'année dernière, on a connu une résiliation du contrat anticipé voulu par l'autorité organisatrice, qui est le Grand Reims. Et nous, dans ce cadre-là, on a dit ça suffit d'utiliser l'argent public via des opérateurs privés. Parce qu'à chaque fois, on court à la catastrophe. Il y a un climat social délétère dans nos entreprises qui fait qu'on est obligé, malheureusement, de se bouger et malheureusement d'en venir des fois, et souvent malheureusement sur toute l'année dernière, par des mouvements de grève. Mais l'année dernière, on a été sur un mouvement long parce qu'on a souhaité construire un argumentaire, d'ailleurs sous forme de manifeste, un argumentaire pour une meilleure gestion de l'argent public, notamment dédié au transport. Et donc, on souhaitait ce qu'on peut appeler dans les années 70, on appelait ça comme ça, la municipalisation des services publics. Donc là, c'était bien un retour à une municipalisation qu'on souhaitait, ce qu'on appelle une gestion directe, ou NESPL, puisque c'est des nouveaux termes qui sont apparus ces dernières années. C'est une société publique locale, mais où, à l'intérieur, bien entendu, il n'y a pas d'actionnaire. Et donc, je dirais, il n'y a pas d'actionnaire au sens propre financier du terme, parce que sur une ESPL, il y a deux actionnaires qui doivent être essentiellement publics, maîtrise publique, c'est-à-dire soit la collectivité, c'est souvent le cas, et la plus grande mairie. On a quelques SPL au niveau national. La SPL, les deux actionnaires majoritaires, restent la collectivité locale, c'est-à-dire la métropole ou la communauté de communes, et la plus grande ville de la collectivité locale. Et à l'intérieur de ces montages de modes de gestion, parce qu'on parle bien de modes de gestion des transports urbains, bien entendu, c'est le deuxième pendant de notre revendication, c'est la représentation des salariés. Parce que on sait de quoi on parle, nous, en tant que représentants des salariés, quand on évoque le transport urbain. Et bien souvent, on laisse ça à d'autres, et donc d'être représenté au sein d'un conseil d'administration avec des voix délibératives, ça nous donne des échanges en face des politiques, et ces échanges-là, on peut des fois renverser la donne. Voilà, c'était nos deux principales revendications. Hélas, on a perdu, puisque le 30 juin dernier, juste avant les congés d'été, le conseil communautaire a voté pour une poursuite et une relance de DSP. Alors, délégation de services publics, en bref, c'est une privatisation. Voilà, sous des termes un petit peu service public, on oublie bien entendu le contexte, c'est vraiment une privatisation. Et donc, on va relancer à nouveau une privatisation et on va refaire encore un appel d'offres. Et malheureusement, derrière un appel d'offres, il y a toujours la question du dumping social qui est visé par les opérateurs privés. Et là, malheureusement, on est en plein dedans.
D'accord. Avant, comment étaient gérés les transports de Reims? Est-ce que Reims, la communauté de Reims, est-ce qu'elle avait un poids dans la gestion des transports ou pas?
C'est toute la problématique de la délégation de services publics. Une délégation de services publics, alors le premier mot, c'est délégation. C'est ce qui veut bien dire que l'autorité organisatrice, qui est le Grand Reims là, en l'occurrence, délègue sa compétence transport à un opérateur privé. Donc c'est le donneur d'ordre qui délègue totalement la vie du réseau et la vie des salariés à un opérateur privé, avec tout ce que ça engage derrière. Voilà.
Oui, mais il pourrait être délégué avec ses conditions à lui. C'est-à-dire, je délègue à une société privée en leur demandant... Par contre, les gars, il faut que ça soit service public. Mais là, on est d'accord, ça ne doit pas fonctionner comme ça. Je pense que la délégation fait que l'opérateur, c'est lui qui gère comme il veut, en fait.
Dans le cadre de la délégation de service public, l'autorité organisatrice va élaborer un cahier des charges. Donc, les trois opérateurs, que Transdev, Keolis et RATP, vont bien entendu se concurrencer. D'ailleurs, ils se concurrencent qu'avec de l'argent public, puisque ces trois groupes-là sont majoritairement arrosés d'argent public, pour pas dire à 100%. Donc il y a une concurrence déjà déloyale et réalisée avec de l'argent public. Et donc ils vont répondre à ce cahier des charges-là. Mais au-delà de la réponse, après avoir répondu, c'est la période la plus dangereuse pour les salariés, c'est la période de négociation. Parce que vous avez les trois qui vont répondre au millimètre près pour être dans les prix, puisque le prix n'est toujours pas connu dans une délégation de service public. Qu'est-ce qui fait le prix à la fin? C'est la négociation qui va avoir lieu après à ce que les trois auront rendu comme dossier vis-à-vis du cahier des charges. Donc c'est la période la plus dangereuse, et cette période-là, on va la connaître au printemps 2023. Et bien entendu, très loin des salariés, très loin des représentants des salariés. Donc on est dans un monde feutré où on décide du sort du service public, des 600 familles là, actuellement qui sont au transport urbain à Reims, et bien entendu du sort des usagers.
D'accord.
Non, parce que du coup, tu fais bien le dire. Donc, il y a vos emplois qui sont absolument plus assurés du coup avec le nouveau contrat qui a été signé. Donc, c'est un manque de considération pour les employés, mais c'est aussi un manque de considération pour les usagers, parce que le contrat qu'on a actuellement, que la gauche a toujours dénoncé depuis sa création, faut pas oublier qu'il a été signé avec la même équipe quasiment qu'on a aujourd'hui au Grand Reims. C'est-à-dire que l'équipe qui casse le contrat aujourd'hui est la même pratiquement qu'il l'a signé à l'époque. Donc déjà, est-ce qu'on peut se demander s'ils vont pas à nouveau refaire des bêtises avec ? Ce qu'ils l'ont déjà fait, ils peuvent très bien recommencer. Et surtout, c'est le manque de transparence de ce qu'il y avait dans l'ancien contrat qui est dénoncé aussi. Il y a une grande partie du contrat qui est sous le secret des affaires et qui ne peut même pas être consultée par les élus d'opposition. À l'époque, on avait plusieurs conseillers municipaux qui étaient donc d'opposition du Parti communiste, qui avaient demandé à consulter ce dossier, à consulter le contrat, et la plupart du temps, on leur a dit non. Et une fois, on a un de nos élus qui a eu l'autorisation d'aller le consulter, c'était dans une pièce, tout seul et sans rien noter, parce qu'il n'avait pas le droit de repartir avec des informations. Donc on peut aussi très bien dénoncer, et il faut le faire, le manque de transparence avec notre argent public.
Et alors du coup, je rebondis sur ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que là, on a des personnes qui vont établir un contrat suite à un contrat qu'ils ont eux-mêmes signé il y a 6 ou 7 ans et qui viennent de rompre. Et donc ma question, c'est alors pourquoi rompt-ils ce contrat aujourd'hui ? Sur quoi se base-t-il pour dire tiens, on rompt le contrat ? Parce que alors j'ai lu un petit peu des informations que tu m'avais envoyées, donc normalement, alors peut-être que vous pourrez en parler, mais c'est un contrat qui était sur 34 ans, renouvelable ou ajustable tous les 6 ans, si j'ai bien compris. Et donc là, comment se fait-il que quelqu'un veut rompre ce contrat-là ?
Je vais prendre l'argument qui est mis sur la table du conseil communautaire par la présidente de Grand Reims, hein, Madame Vautrin. La résiliation qui a eu lieu l'année dernière était inscrite dans le cadre de l'intérêt général, parce que notre territoire avait évolué de 12 communes Reims Métropole à 143 communes. Donc le prétexte de casser le contrat, puisque nous on est sur historiquement on était basé sur du transport urbain autour de ces 12 communes-là. Et donc la volonté politique aujourd'hui, alors la volonté politique de ceux qui sont bien entendu en place au Grand Reims, c'est de permettre apparemment une meilleure desserte en termes de transport. Bien entendu, on attend de voir avec beaucoup d'impatience cette desserte-là. Des 143 communes.
Et en plus, 143 communes sur un périmètre de combien ?
Alors, le périmètre, je ne le connais pas, mais bon, si on prend Reims qui est au cœur, vous avez des communes qui sont à plus de 30
km. Voilà, oui, c'est ouais, ça. Et ça va pratiquement jusqu'à Chalon, hein, je crois. Chalon s'est désengagé au dernier moment, quoi, avant la signature du Grand Reims. Du Grand Reims. Mais ça va aux portes de Chalon, quoi. Et puis, c'est.
Et Fim de l'autre côté.
Oui, ça je savais, Fim, ouais.
Oui, effectivement, c'est un territoire qui est très vaste. D'ailleurs, nous, c'est ce qu'on dit. Dans ce territoire-là, il y a deux territoires. Il y a un territoire qui est dense, anciennement Reims Métropole, et vous avez un territoire qui est complètement rural. Et donc, nous dire qu'on va réaliser du transport pour ces zones rurales-là à moindre coût, puisqu'on a été évoqué aussi le fait qu'il n'y aura pas un euro de plus de mis dans le transport demain. Donc nous, la question, c'est qui va financer, quoi. Si on ne met pas un euro de plus pour ces nouvelles communes-là qu'on veut voir apparaître dans le cadre du transport ou de la mobilité, parce que c'est le mot à la mode, on a des craintes à se faire, nous, au niveau de l'entreprise, en termes d'emploi, de rémunération, de conditions sociales et autres. Nous, ce qu'on dit vulgairement, c'est qu'on est en train de déshabiller Pierre pour habiller Paul.
Mais d'autant plus que je vois mal comment ça ne pourrait rien coûter, étant donné que casser un contrat, ça a un coût.
Alors là, vous mettez le doigt dessus, c'est la période de résiliation. On a résilié les élus du conseil communautaire à une très grande majorité, pour ne pas dire l'unanimité d'ailleurs, ce qui peut nous faire sourire, parce que avoir plusieurs centaines de représentants et qui votent pratiquement tous d'une même voix sur un dossier aussi complexe, technique et financier, voilà, des fois, de temps en temps, on dit que notre démocratie est malade, mais oui, malheureusement, elle est fortement malade. Donc cette résiliation-là, elle a été votée, et bien entendu, quand vous votez par anticipation la fin d'un contrat, notamment celui-ci, il va y avoir quand même un certain nombre d'écueils s'agissant de constater, parce que les groupes privés qui gèrent, ils vont avoir bien entendu une volonté de s'en sortir avec de l'argent fret. Voilà. Donc c'est la grande inconnue, et c'est d'ailleurs c'est ce qui nous fait dire que on voyait une résiliation sans connaître le montant de la résiliation et relancer à pratiquement le même mode de gestion, c'est-à-dire encore une privatisation, c'est quand même assez curieux comme méthode. Voilà, on a des élus communautaires qui ont voté le 30 juin une nouvelle privatisation sans connaître le montant des indemnisations. Et ça, en termes de démocratie, c'est quand même d'une tristesse affligeante.
Et de gestion, oui. Mais moi, là où je me pose vraiment des questions, c'est que les gens qui sont en zone rurale, ils sont habitués à prendre leur véhicule. Ils vont pas, quoi. C'est pas une population qui a l'habitude de prendre les transports en commun, sauf les gamins pour aller dans leurs établissements scolaires. Mais sinon, les gens, ils montent dans leur voiture juste devant leur pas de porte et puis ils vont. Donc je vois pas comment un transport en commun peut remplacer efficacement le transport personnel, quoi.
Oui, oui. Bah, le problème, c'est du moins le problème ou la solution. La solution, les opérateurs privés, d'ailleurs, ou même publics, ont trouvé quand même quelques parades pour enlever le mot collectif ou transport. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des solutions individuelles de transport. On pense notamment à l'amplification, on le voit au cœur de Reims, des voies cyclistes, l'apparition de la trottinette électrique qui nous fait quand même un dégât assez considérable, d'ailleurs pas uniquement sur Reims, malheureusement, avec des conséquences des fois très très malheureuses pour les utilisateurs de bicyclettes et de trottinettes. Et il y a aussi une solution qui est vantée, là c'est l'aspect du covoiturage, avec peut-être l'apparition de parkings aux abords de zones rurales pour organiser le covoiturage. Mais en tout état de cause, ça ne part pas des citoyens. Moi qui habite dans une commune du Grand Reims et à l'extrémité du territoire, je n'ai jamais eu dans ma boîte aux lettres un quelconque message de mon maire m'invitant à une réunion pour évoquer mon mode de déplacement et les modes de déplacement de mes enfants et autres. Donc on voit bien que la solution, s'immiscer dans le cadre comme on le fait là actuellement, ou du moins pas nous, mais plutôt le Grand Reims, d'apporter une solution de transport, voilà, il faut que ça parte des habitants.
Oui, voilà, faut que ça parte d'un besoin des habitants. Mais comme ils ont, quoi, moi je sais que je suis originaire d'une petite ville où dès qu'on avait l'âge d'avoir le permis, on avait le permis et puis on se déplaçait après en voiture. C'est vrai que après c'est compliqué quand on a l'habitude de la voiture de revenir à un transport en commun, quoi. Donc c'est pas la même souplesse, c'est pas même moi là sur Reims. J'habite à Tinqueux. Si je vais à l'autre bout de Reims, sans changer de ligne, j'en ai pour 40 minutes. En voiture, j'en ai pour 20 minutes. Et en fait, si je fais l'aller-retour dans l'après-midi, je paye 2,60 € pour passer une heure de plus en transport, quoi. Donc, même à l'intérieur de l'agglomération, c'est pas rationnel de quoi, pas rationnel. Disons qu'on n'a pas tendance à prendre facilement les transports en commun, quoi.
Oui, mais on est dans un modèle où ça fait, ça fait 50 ans que tout est fait pour promouvoir la voiture individuelle.
Ouais.
Le rêve, c'est le modèle du rêve américain, où tout le monde a sa voiture individuelle, voire deux voitures pour une famille, et tout se déplace en voiture. C'est pour ça qu'on a construit des zones en périphérie de Reims, et que pour faire ses courses, et que le centre-ville a été désertifié. Et donc oui, les gens ont pris l'habitude de prendre la voiture parce qu'il y avait un plaisir de la voiture, mais ils n'avaient pas forcément le choix de l'utiliser pour faire certaines choses. Là, dire on va faire en sorte que les personnes délaissent leur voiture pour utiliser les transports en commun, ça peut avoir un sens, mais dans un modèle systémique plus global.
Oui, et puis il faudrait que ce soit une volonté de la population.
Oui,
Tu peux pas imposer ça.
Tu la consultes, mais ça, on va en reparler juste après. Je me posais la question de savoir le système actuel de transport, est-ce qu'il est rentable en termes financiers, et est-ce que les usagers, en sont satisfaits de la rapidité, du maillage, etc. Est-ce qu'il est opérationnel le système de transport sur Reims?
On met un peu le doigt dessus. Ce qui manque aujourd'hui sur Reims et peut-être dans d'autres villes, c'est des associations d'usagers qui seraient plus en capacité de remonter. Nous, après, on a juste l'aspect de l'offre vis-à-vis de la fréquentation qu'on a à l'intérieur de nos bus et de nos tramways. Donc, ce qu'on peut dire, déjà, le réseau Rémois est vraiment un réseau qui est très apprécié par la population de Reims et alentour. On le voit là, la sortie post-Covid, où on a énormément souffert sur les deux dernières années, parce que un manque de fréquentation, parce qu'on était soit en télétravail ou soit en Covid, ou forcé de rester à la maison pendant des mois, hein, la fameuse période du printemps 2020. Donc on a énormément souffert. Notre activité a été placée quand même comme service essentiel à la nation. D'ailleurs, aujourd'hui, ceux qui dissonnent ont totalement oublié ces mots-là. Je veux parler, bien entendu, de notre président de la République, parce que lui, il fait des lois s'agissant de, notamment de la loi TE, puis il va vite revenir sur l'environnement, mais imposer aux collectivités locales un mode plus propre de son transport collectif et ne pas donner les moyens à la collectivité locale, c'est aussi un non-sens, quoi. Mais je reviens brièvement sur ce que vous aviez évoqué tout à l'heure par rapport aussi aux salariés et puis aux personnes qui habitent quand même un peu plus loin que le centre-ville de Reims. Il ne faut pas oublier, et ça c'est essentiel, pourquoi les gens s'en vont aussi de Reims pour habiter à 10, 15 ou 30 kilomètres de Reims. C'est le prix des loyers, c'est le prix des fonciers. Et donc la voiture était légèrement abordable en s'offrant un petit loyer ou un foncier un peu convenable. Avec la voiture, on pouvait se déplacer. Aujourd'hui, malheureusement, la voiture est devenue excessivement chère, avec le prix de l'énergie, le prix des voitures, hein, les fameux contrôles techniques où il faut changer régulièrement sa voiture. Et donc forcément, même le prix du foncier a légèrement augmenté quand même sur aux alentours de Reims. Et donc on voit bien que pour les personnes qui travaillent, pour les travailleurs, c'est quand même beaucoup plus difficile de se déplacer. Alors de rechercher des solutions pour leur apporter un autre mode de transport que la voiture individuelle, oui, nous, la CGT, on dit oui, il faut réfléchir, y compris même sur certaines... mais du covoiturage, mais il faut que ce soit organisé à partir des communes. Et pour l'instant, les maires qui ont voté cette résiliation-là, qui ont voté encore une privatisation... Ils n'ont jamais consulté leur population. C'est ça, nous, qu'on n'arrive pas à comprendre qu'on est dans un conseil communautaire sur un choix de service public, un choix de société, et que dans sa mairie, on concerte pas ses citoyens, quoi.
De toute manière, si les maires du Grand Reims, pour la plupart, ont voté, et leurs premiers adjoints ont voté pour, c'est pas tellement par conviction, mais c'est parce que derrière, si il y en a un qui commence à vouloir créer un mouvement de contestation et à pas aller dans le sens de Madame Vautrin et de sa majorité de droite, il va tout de suite se faire rouler dessus par le poids de la communauté urbaine. C'est-à-dire que dès qu'il va demander un financement pour rénover sa salle des fêtes, entretenir sa station d'épuration, quelque chose comme ça, derrière, on peut lui dire « Ah là là, c'est bizarre, il n'y a plus tellement de fonds pour vous aider ». Donc il y a une pression aussi politique et économique de la majorité sur les petites mairies qui font qu'elles ne peuvent pas s'exprimer librement. Et donc oui, on asphyxie la démocratie avec ces méthodes... C'est méthode occulte, mafieuse, on peut le dire.
Ouais. On va faire un tout petit break musical et je voudrais bien qu'on revienne juste après sur la rentabilité des transports. Et on parlera peut-être, on parlera énergie avec Cécile. Mais là, pour l'instant, on va écouter Jacques Brel avec « Il pleut ».
Il pleut, c'est pas ma faute à moi. Les carreaux de l'usine sont toujours mal lavés. Il pleut, les carreaux de l'usine, y en a beaucoup de cassés. Les filles qui vont danser ne me regardent pas, car elles s'en vont danser avec tout cela. Qui savent leur payer pour pouvoir s'amuser, des fleurs de papier ou de l'eau parfumée. Les filles qui vont danser ne me regardent pas, car elles s'en vont danser avec tout cela. Il pleut, c'est pas ma faute à moi, les carreaux de l'usine sont toujours mal lavés. Les corridors crasseux sont les seuls que je vois, les escaliers qui montent, ils sont toujours pour moi. Mais quand je suis seul sous les toits, avec le soleil, avec les nuages, j'entends la rue pleurer, je vois les cheminées de la ville fumer doucement dans mon ciel à moi. La lune danse pour moi le soir, elle danse, danse, elle danse, danse, et son haleine immense à l'eau me caresse. Le ciel est pour moi, je m'y plonge le soir, et j'y plonge ma peine. Il pleut, et c'est ma faute à moi, les carreaux de l'usine sont toujours mal lavés. Il pleut, les carreaux de l'usine. Moi, j'irai les casser.
Bah, faut pas casser les carreaux de l'usine. En plus, s'il fait froid, ça va nous coûter cher en chauffage cet hiver. Donc, d'ailleurs,
les ouvriers mettront un pull.
En plus, j'ai même pas fait ça en parlant de ça. Mais du coup, vous êtes toujours sur La Tactique, saison 2, première émission. On s'était dit que cette année, on pourrait reprendre une habitude qu'on n'avait pas eu très longtemps l'année dernière, c'est de parler de sujets qui fâchent. Et là, en l'occurrence, Cécile voulait nous parler d'énergie, justement. Donc, prenons un petit temps pour parler énergie, si tout le monde est d'accord. Et si vous n'êtes pas d'accord,
On en parlera quand même.
Voilà, exactement.
Désolée. Donc, là, c'est un article du Monde Diplomatique de novembre 2021 que j'ai, sur lequel je suis retombée pendant cet été, et qui explique 25 ans de dérégulation du marché du gaz et de l'électricité par l'Union européenne. Et moi, j'ai pensé, alors c'est un petit peu long, mais facile à comprendre normalement. Et j'ai pensé que c'était important à l'heure actuelle de revenir un peu sur la façon dont tout ça a été, les prix de l'énergie ont été détricotés. Parce que là, on va avoir des grosses surprises. Moi, je sais que, par exemple, pour le gaz, je suis chez Total Energy et ma facture a pris entre cet été et septembre l'an dernier 21%. Quoi, pas ma facture, mais le prix du gaz a pris 21%. Donc, on va voir comment c'est possible. Donc, on revient là il y a à peu près 25 ans. Donc, les décideurs européens ont pensé que la concurrence mise en place pour le prix du gaz et de l'électricité ferait baisser les prix au profit des ménages comme des entreprises. Et en fait, depuis les années 2000, on voit bien que c'est l'inverse qui se produit. Donc la méthode pour mettre en place la concurrence, c'était la séparation patrimoniale. On a vu un peu ça l'autre fois avec la SNCF, où en fait Réseau Ferré de France s'est séparé de la SNCF. Donc là, ça vise à isoler les activités précédemment intégrées au sein d'une même entreprise publique de façon à les rendre indépendantes les unes des autres. Donc, dans le cours des années 2000, donc le réseau de transport d'électricité, RTE et ERDF, qui est à présent Enedis, ont été détachés d'Électricité France, d'EDF. Et dans le gaz, un peu plus tard, donc GDF Suez, Gaz de France est devenu d'abord GDF Suez, puis Engie, et il a été coupé des réseaux de gazoducs à haute pression et des activités de distribution qui ont été transférées à GRT Gaz et Gaz Réseau Distribution France, GRDF. Suite à ça, il a été créé une bourse du gaz et de l'électricité sur lesquelles se forment les prix de marché. Et ça répond au deuxième principe fondateur du modèle néolibéral. Elles ont vocation à remplacer les tarifications encadrées par les pouvoirs publics. Donc, du coup, bah, c'est une bourse comme les actions qu'on peut connaître sur les d'autres marchés. Donc, il y a deux types de contrats principalement qui sont mis en circulation pour couvrir les besoins des fournisseurs, c'est-à-dire les contrats à terme qui permettent une livraison différée à l'année, au trimestre, au mois ou à la semaine suivante pour un prix conclu à l'avance dans le contrat. Donc ça, des contrats à terme, c'est vraiment des contrats sur une longue durée. Et il a été mis en place des contrats spot qui concernent les livraisons pour le lendemain ou pour quelques jours qui suivent l'achat en temps réel. Donc la France, qui ne produit pratiquement pas de gaz, doit l'importer donc sur ses marchés. Et ses principaux fournisseurs étaient en 2020 la Norvège pour 36%, la Russie pour 17% et ensuite Pays-Bas, Algérie et Nigeria pour à peu près 7 à 8% chacun. Donc sur ces marchés, en fait, au départ, Gaz de France signait avec des contrats avec ses fournisseurs sur le long terme, sur des durées de 10 à 15 ans. Et donc, outre la sécurité d'approvisionnement, la durée du contrat offrait l'avantage de financer les infrastructures. Bon, comme maintenant déjà les deux... La distribution et les infrastructures sont séparées, c'est un peu problématique. Et au début de la privatisation, la plupart des nouveaux fournisseurs s'approvisionnaient eux aussi avec des contrats sur le long terme. Mais sous l'effet de la concurrence qui s'intensifie, les contrats spot s'imposent, c'est-à-dire les contrats à très court terme.
Il faut suivre la fluctuation du marché.
Voilà. Donc, Thomas Riverli, un sociologue spécialiste du prix de l'énergie, explique en fait que quand les prix des contrats spot ont commencé à chuter, les gros consommateurs ont demandé à leurs fournisseurs de leur faire bénéficier de cette baisse. Voilà. Donc, pour répondre à cette demande, les fournisseurs se sont désengagés des contrats à long terme et ont acheté les contrats spot. Ainsi, le marché spot a pris beaucoup plus d'importance dans la fixation des prix. Donc ça fluctue beaucoup plus et comme tout le monde veut du spot, le spot il augmente. Dès 2015, les contrats à long terme ne pèsent plus qu'un tiers des transactions à l'échelle européenne. Toujours soumis à la conjoncture, les cours du gaz deviennent nettement plus sensibles aux logiques spéculatives, à des variations en bourse et se répercutent directement sur les consommateurs. Alors pour ce qui est de l'électricité, c'est un peu différent parce que EDF était un gros producteur d'électricité avec les centrales nucléaires. Et là, en fait, Bruxelles a commencé à soutenir le développement privé des énergies renouvelables électriques. Donc sur nos factures, on paie une taxe sur les consommations. Et cette taxe sur les consommations sert à installer, à financer des fournisseurs d'énergie renouvelable, donc c'est-à-dire éolienne et puis photovoltaïque. Donc le développement de ces projets renouvelables devient très lucratif et suscite un véritable engouement, non sans effet pervers, comme l'implantation désordonnée d'infrastructures, qui au final sont peu efficaces. Bon, c'est que les éoliennes, elles tournent peu. Et puis, les panneaux, c'est pareil. Quand il n'y a pas de soleil, quand il fait nuit... pas de soleil, ça va, mais quand il fait nuit, on ne peut pas les utiliser. Sachant qu'EDF gardera malgré tout un avantage décisif en matière de production, puisqu'elle continuera de disposer du parc nucléaire, l'Union européenne veut créer une concurrence au niveau de la fourniture. Donc là, ça, je pense que beaucoup, que vous en avez peut-être déjà parlé. Donc Paris et Bruxelles trouvent un compromis au tournant des années 2010. D'une part, EDF tiendra chaque année un quart de sa production nucléaire à disposition de ses concurrents sur le marché français, qu'elle vendra à un tarif plafonné par les pouvoirs publics. C'est-à-dire que EDF vend moins cher que le coût, que son prix de revient à d'autres opérateurs qui peuvent être, je ne sais pas exactement, moi je sais que je suis CNRCOP, c'est différent, mais d'autres opérateurs qui, eux, ne font que vendre de l'électricité qu'ils achètent à bas coût.
Même à l'étranger. Je crois qu'actuellement, l'électricité revendue à l'étranger coûte moins cher que l'électricité qu'on achète nous.
Après, j'ai récemment, avec le coût de l'augmentation de l'électricité, etc., j'ai vu aussi qu'Enercop, du coup, allait peut-être utiliser aussi une partie de l'énergie nucléaire produite.
Ouais.
Donc on en revient toujours au fait, justement, que le nucléaire est toujours là pour... Le nucléaire public, donc l'argent public, est toujours là pour soutenir un marché et le créer artificiellement.
Ouais. Alors là, on va y venir et... Parce que là, c'est un peu l'historique. Et quand on va arriver à tout de suite, ça va être un peu différent. Et donc, d'autre part, les tarifs régulés par les pouvoirs publics qui reflètent les coûts de production d'EDF doivent céder la place à des prix de marché pour les consommateurs non résidentiels, donc c'est-à-dire les entreprises. Et, la question est réglée par la suppression pure et simple du tarif régulé jaune et vert. Et pour les ménages, le calcul du tarif bleu d'EDF est modifié pour intégrer une composante qui reflète le prix de l'électricité sur la bourse européenne. Si le prix du marché augmente, le tarif régulé aussi, et sans justification des coûts de production. Dans les coûts de production, c'est-à-dire que ça ne coûte pas plus cher à fabriquer, mais ça coûte plus cher à l'achat. Plus récemment, Bruxelles a voulu encourager un nouveau type d'offre commerciale dite de tarification dynamique. Dans ce système de facturation, les prix de bourse sont répercutés en temps réel, heure par heure, sur les consommateurs grâce à la technologie des fameux compteurs communicants de type Linky. La directive européenne du 5 juin 2019 ne se contente pas d'autoriser cette tarification dynamique, mais l'impose à chaque fournisseur qui a plus de 200 000 clients finaux. Bon, Enercop, on est en dessous des 100 000, donc pour l'instant, ça va. Et dans l'ancien monde de l'électricité, celui du service public français, les tarifs sont définis de façon à fournir aux consommateurs au meilleur prix, tout en permettant à EDF de réaliser les investissements nécessaires au fonctionnement du réseau. Avec la bourse de l'électricité, il en va tout autrement. Le cours du mégawattheure varie en permanence au fil de la journée en fonction de l'offre et de la demande. Donc ça, cet article date d'il y a presque un an maintenant. Hein, je crois que c'était novembre 2021. Et les choses ont beaucoup changé depuis. Quoi, ça, c'est toujours vrai. Mais disons que là, par exemple, pour le gaz, notre gaz qui venait à 17%, je crois, oui, de la Russie, ce gaz-là, on n'y a plus droit parce que... le gazoduc Nord Stream 1 était en réparation, en maintenance. Et en fait, la société qui était chargée d'entretenir ce gazoduc a été empêchée par l'Union européenne de continuer son travail sous prétexte qu'on n'a pas le droit de commercer avec la Russie. Donc, le gazoduc Nord Stream 1 est inutilisable, livraison impossible. Comme on était encore sur des contrats à long terme, la Russie a proposé de livrer par Nord Stream 2 pour honorer les contrats en cours. Mais pareil, l'Union européenne a refusé. Donc maintenant, en fait, on achète du gaz à la Chine, qui est du gaz que la Chine achète à la Russie, qui est mis en Chine dans un méthanier. Donc le gaz qui venait par un gazoduc directement de la Russie vient maintenant en bateau. Et on achète ce gaz en dollars. Donc ça revient deux fois plus cher, parce qu'en plus, la Chine, ils prennent quand même une petite marge. Hein, ils ne sont pas même complètement fous.
La Chine prend sa marge et l'euro, avec la,
avec la parité
actuelle, vaut maintenant moins d'un dollar. Ce matin, on était à
0,980.
Voilà, c'est ça.
Ouais, ouais.
98 centimes.
Ouais. De toute façon, la baisse par rapport au dollar depuis le 1er janvier, c'est 13,67%. Donc voilà, autant dire que on n'est pas vraiment gagnant. Alors pour l'instant, ce qui nous sauve, c'est que Engie a bloqué les tarifs. Les tarifs d'Engie ont été bloqués en 2022. Sans ce blocage, les prix auraient augmenté déjà de 48,7% entre le 1er octobre 2021 et le 1er juin 2022. Là, on nous prévoit une hausse de 15% en janvier 2023, mais du coup, je ne sais pas, la compensation entre la hausse qu'on va subir et puis la hausse réelle du marché, je ne sais pas qui va la payer. Et puis, concernant l'électricité, alors là, normalement, on était les rois du monde avec nos centrales nucléaires, sauf qu'il y en a la moitié du parc qui est à l'arrêt. Jean-Bernard Lévy, d'ailleurs le PDG d'EDF, a été remercié dernièrement parce que, en fait, soi-disant c'est mal géré, sauf que alors là pour le coup le brave homme, ça fait 20 ans ou 25 ans qu'on lui dit qu'on va fermer les centrales nucléaires, donc forcément il investit pas dans leur entretien. Après les ingénieurs, les jeunes qui veulent faire ingénieur, on leur dit surtout pas dans le nucléaire parce que de toute façon les centrales vont fermer. Du coup, on n'a même pas les ingénieurs qualifiés pour faire tourner les centrales correctement. Donc là, c'est la catastrophe absolue. Et là, ce qui se passe, c'est que EDF va racheter. Donc EDF est en faillite, donc l'État l'a renationalisé. Et en fait, EDF a acheté de l'électricité à l'Allemagne et l'Allemagne produit son électricité grâce à des centrales à charbon.
Thermique.
Comment ?
Thermique.
À charbon.
Un non-sens écologique complet.
Voilà, complet.
C'est l'horreur.
Aujourd'hui, le nucléaire, ça représente 54% de la production électrique à l'heure où je vous parle. Même date en 2019, donc avant la crise Covid, c'était 76% de nos productions et on en exportait.
Ouais, voilà.
Voilà. C'est-à-dire que notre souveraineté économique, notre souveraineté énergétique et qui est quand même une économie à faible émission de gaz à effet de serre, a été complètement ruinée par des années et des années de sous-investissement et de menaces justement de fermeture.
Ouais, clairement.
Qui nous mène aujourd'hui à un désastre économique et écologique.
Tout à fait. Donc pour le prix de l'électricité, la hausse a été plafonnée à plus 4% pour 2022. Et là, le plafond passera à plus 15% en février 2023. Bon, ça, on ne peut pas dire de la stocker. Hein, on ne peut pas faire des réserves. donc j'ai regardé ce matin. Quoi j'ai regardé ? J'ai trouvé ce matin. Pour vous donner une idée de... Donc c'est les prix... c'est RTE qui fait... qui donne les prix du marché de l'électricité aujourd'hui. Donc, alors, moi, j'ai pas pris mes lunettes, mais en France, donc ce matin, c'était en mégawattheure 462 euros le mégawattheure. Nous avons la Belgique, l'Allemagne, la Suisse qui sont à 455. Nous avons les Pays-Bas à 455, l'Autriche à 455, l'Angleterre à 287. Et l'Espagne et le Portugal à 173. Donc, comme quoi en fait, c'est uniquement la spéculation qui régit le prix de l'électricité. Et là, on va droit dans le mur. Je ne sais pas comment on va s'en sortir, mais...
Parce que l'Espagne et le Portugal ont récemment annoncé
qu'ils bloquaient les prix
et sortaient temporairement du marché européen d'électricité.
Voilà.
Justement pour garder une maîtrise nationale de leur production.
Tout à fait. Et donc là, c'est vrai que comme nous, on a des européistes qui nous gouvernent, jamais ils n'auront cette démarche-là. Donc voilà. Et si vous voulez, par rapport aux explications sur justement la crise Ukraine et puis le prix de l'énergie, il y a une émission qui est très intéressante, c'est sur Sud Radio, dans Berkov, dans tous ses états, où il reçoit Charles Gave, l'émission du 8 septembre, parce qu'il le reçoit de temps en temps, mais c'est vrai que... C'est assez éclairant sur la façon dont on est gouverné.
Si ça ne vous dérange pas, je vais enchaîner avec Pompe Afrique de Trio et on parle d'argent juste après. Jérôme, de toute façon, tu n'es pas pressé, on a le temps de continuer après. C'est Raphaël, Aussi, ok. Bon ben, pompe Afrique, ça se colle bien, ouais.
J'ai toujours eu de l'admiration pour vous. J'ai toujours su que vous seriez avec nous. Je vous emmène dans nos nouvelles colonies à l'africaine.
Prédateurs tentaculaires,
aux boulimies monopolistes,
aux technocrates mercenaires,
quand la finance a ses artistes,
aux terrains de jeu au soleil,
aux chaises longues pour politique,
Bolloré, Bouygues, Vivendi, Elf
se servent sur la pompe Afrique.
Bolo Poli, Bolo Réseau,
Bolloré voyage au Congo,
Bolloré crée son arsenal,
rejoint la cour du général.
Bolocratie, Bolo la pieuvre,
regarde les devises qui pleuvent,
quand Bolo se roule à tarpe,
il ouvre une usine OCB.
J'ai toujours eu de l'admiration pour vous. J'ai toujours su que vous seriez avec nous. Je vous emmène dans nos nouvelles colonies à l'africaine.
En colo en Angola, je connais tous les moniteurs, richissimes, archi corrupteurs. Y a des armées, des œuvres qui méritent qu'on leur tienne compagnie. Nous on fait la guerre en musique, on fait chanter la République.
France Afrique, l'Immaculée, intérêt pétro meurtrier. Pendant que l'Angola se viole, nous on fait l'amour dans le pétrole. Guinée, Togo, Bissau, Biafra, on est mouillé jusqu'au Rwanda. On a dopé vos dictateurs.
Vous voyez que la France a du cœur. J'ai toujours eu de l'admiration pour vous. J'ai toujours su que vous seriez avec nous. Je vous emmène dans nos nouvelles colonies à l'africaine.
C'est en écoulé notre vache folle sur le marché du Nigeria. À 2 francs le kilo, c'est du bol, je pourrais partir au Bahamas. Mon banquier me trouve un peu pâle, mon compte a besoin de soleil. Faut que je trouve un paradis fiscal où me détendre les orteils.
Paradis, refuge planétaire,
pour portefeuille de mercenaires,
pour autres pilleurs de l'Afrique,
ou pour fumier démocratique.
Elles ont belle gueule nos colonies.
Bizarre, elf s'est fait griller.
Il faut balancer la politique africaine de l'Elysée.
J'ai toujours eu de l'admiration pour vous. J'ai toujours su que vous seriez avec nous. Je vous emmène dans nos nouvelles colonies à l'africaine. J'ai toujours eu de l'admiration pour vous. J'ai toujours su que vous seriez avec nous. Je vous emmène dans nos nouvelles colonies à l'africaine.
Ah, ça fait du bien, au moins. On a souri un petit peu et après, le message...
Ça ne me fait pas sourire du tout, moi.
Ah, ah, bah, non, mais la chanson, elle est rigolote, ça fait... Ouais. le message, non, mais la façon dont il s'exprime, c'est bien. C'est bien. Donc, vu qu'on parlait d'argent, donc je reviens à une question que j'avais posée tout à l'heure et que j'ai toujours pas ma réponse. Est-ce que les transports de Reims sont rentables financièrement ?
Déjà, à l'origine, le transport public qui ne peut pas être rentable.
C'est pas son but. J'essaie juste de mettre les... Vu qu'on l'a privatisé, est-ce que les actionnaires, est-ce qu'ils ont de l'argent ?
Oui, les actionnaires ont de l'argent. Hein. On parle ici de groupes mondiaux quand même, hein, que ce soit RATP ou Transdev ou Keolis. Ce sont des groupes français, mais qui rayonnent sur toute la planète. Oui. Donc voilà, donc ce sont des groupes mondiaux, bien entendu. Donc ouais, Mais il est essentiel, avant de parler de rentabilité des transports, peut-être pour les auditeurs, c'est le financement des transports. De partir de comment est financé le transport avant de parler de rentabilité. Et c'est là où les actionnaires ont un pouvoir de spoliation de l'argent public assez déroutant. On peut parler de trois tiers. Il y a un tiers qui vient des entreprises via leur masse salariale, ce qu'on appelle le versement mobilité qui a été changé par Macron, mais à qui avant s'appelait le versement transport. Là, ce sont les entreprises de plus de 12 salariés qui payent cette taxe-là vis-à-vis de leur masse salariale à un taux de 1,8% sur le bassin du Grand Reims. Donc c'est une première source de financement qui correspond grosso modo à un tiers. On a un autre tiers, c'est bien entendu celui des impôts, qui provient du territoire, payé à Grand Reims. Et un autre tiers, c'est la tarification faite aux usagers du réseau. Donc avec, on voit bien que notre réseau urbain, comme celui à peu près dans toutes les villes de province, sont largement financés avec de l'argent public. C'est ça, hein, beaucoup d'impôts. Les taxes payées par les entreprises, et c'est pour ça que, à un moment donné, vous savez, dans le pays, il y a eu les gilets jaunes, et qui voulaient plus de taxes et plus tout ça, alors que nous, notre profession est gérée par des taxes. Donc c'était aussi contradictoire. Des fois, on voyait des salariés, nous, des transports urbains, afficher sur leur pare-brise un gilet jaune, alors que, ils se retrouvaient au chômage si on enlevait les taxes. Donc c'était aussi bizarre. Donc il a fallu aussi discuter avec les salariés que nous, on voulait des taxes pour financer notre transport, notre outil de travail, et bien entendu, permettre à des usagers de se déplacer. Et donc, bien entendu, il y a la tarification aux usagers. D'ailleurs, en ce moment, il y a un débat aussi sur certaines villes, certains territoires, de vouloir ce qu'on appelle, entre guillemets, une gratuité, mais qui n'est pas une gratuité, puisqu'il n'y a rien qui est gratuit dans le pays. Donc, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui paye le transport. Si on enlève une jambe ou un bras au transport, il faut aller chercher ce bras ou cette jambe-là sur d'autres. Voilà. Donc, c'est d'ailleurs ce qui a été réalisé, notamment, ce qu'on prend beaucoup comme exemple, c'est sur la ville de Dunkerque. Mais voilà, ça s'est fait, ça fait au détriment aussi de sur le territoire, au niveau de la municipalité, on a enlevé des salles de concert et tout pour financer le transport dit de gratuit. Quand même, il faut le savoir. Et après, avec des conditions de travail complètement dégradées, pour pas dire pourries, pour les salariés.
Par rapport à quoi ça a dégradé vite fait,
si vous voulez, la gratuité, malheureusement ou heureusement, ça a amené beaucoup de personnes à l'intérieur des bus.
D'accord.
Et des tramways et autres. Et sauf que maintenant, il y a un manque de financement pour payer des bus et payer des chauffeurs de bus.
D'accord. Okay.
Donc, on prendrait que cet été, parce que je suis régulièrement en contact avec la CGT de Dunkerque, des transports urbains de Dunkerque. Les transports urbains, avec la chaleur qu'on a connue, étaient complètement bondés. Et bien entendu, les salariés, ils ont le droit aussi à leur congé payé. Et donc, ils ont souffert tout l'été avec des bus bondés, parce que, bien entendu, mis entre guillemets « gratuits ». Et donc, manque de matériel, manque d'effectifs. Et voilà, ça nuit considérablement, je dirais, à avoir un service parfait pour les usagers, et bien entendu, pour les salariés que nous sommes.
Ouais, bien sûr.
Donc, ça a fait un appel d'air. Ça, c'est sûr et certain que ça fait un appel d'air. Mais derrière, il faut racheter des bus et racheter des effectifs. Mais comme on s'est coupé d'un mode de financement, on n'a plus l'outil nécessaire sur le versement mobilité d'agir. Et on n'a plus d'outil pour les impôts. Autrement, on augmente sans cesse les impôts perçu par la population.
Il faut un autre modèle social économique derrière pour pouvoir financer les transports gratuits pour l'usager.
C'est ça.
On est bien d'accord. Oh, vas-y, Raphaël.
Je rebondir là-dessus. C'est vrai que au niveau écologique, au niveau social, la gratuité des transports, c'est quelque chose de merveilleux. Mais comme tu l'as dit, ça peut du coup affecter derrière les conditions de travail et les conditions économiques des collectivités. Là, nous, au Parti communiste, Fabien Roussel l'a encore affirmé lors des universités d'été du parti à Strasbourg. Nous, on veut mettre sur la table 150 milliards pour la rénovation énergétique, le maintien des centrales nucléaires et une augmentation de la qualité des transports sur tout le territoire français, que ce soit au niveau des municipalités, des régions ou de la SNCF, tout en servant directement dans les poches des grandes sociétés qui ont fait des bénéfices astronomiques. Je pointe notamment du doigt Total, avec plus de 18 milliards de bénéfices nets aux dernières nouvelles, en prenant dans leur poche pour réinjecter directement dans les sociétés de transport, qu'elles soient des collectivités territoriales ou de la SNCF. Et donc ce serait un moyen aussi de financer une partie du moins de la gratuité pour les plus précaires en priorité. Et moi je parle notamment au nom des jeunes communistes, de nos jeunes camarades, qu'ils soient étudiants ou non, qui souvent ont peu de revenus et doivent payer par exemple pour les étudiants rémois, ceux qui sont pas boursiers, échelon 4 ou supérieur, ça fait quand même 267,30 € par an. Donc ça reste un budget, ça fait presque la moitié d'un loyer.
D'accord. Et là, avec...
Mais jamais, du coup, toujours, bien sûr, prioriser avant tout les conditions de travail des premiers qui vont être justement exposés à ces gratuités, qui sont les travailleurs, et leur apporter avant tout des garanties. Avant de commencer à entamer une quelconque réforme des transports. Comme tu disais tout à l'heure, vous n'êtes jamais consulté sur le changement d'une régie, le changement d'un mode de financement. Il faudrait que vous soyez beaucoup plus consulté pour ces sujets-là. Je vous appelle aussi à rejoindre massivement la mobilisation du 29 septembre partout en France pour demander des hausses de salaire, pour demander une meilleure protection sociale et pour finalement continuer à défendre les acquis sociaux, les conquis sociaux qu'on a eu dans notre grâce à la sécurité sociale et qui sont aujourd'hui plus menacés que jamais.
Là, vu que l'émission touche à sa fin, mais du coup, on continuera le mois prochain. On avait parlé du revenu de base la saison dernière et vous devez savoir que c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur. C'était juste pour vous informer que le Mouvement français pour le revenu de base propose des agora. Donc les agora, c'est des réunions en ligne qui sont ouvertes à toutes et tous, qui a lieu de 19h30 tous les 10, 20 et 30 du mois. Et pour vous dire, la prochaine, donc le 30 septembre, ça sera une agora sur une taxe sur le patrimoine pour financer un revenu de base. Le 10 octobre, ça portera sur l'allocation universelle, la protection sociale du 21e siècle. Et enfin, celle que je connais, celle du 20 octobre, vous pouvez venir poser toutes les questions que vous voulez sur le revenu de base. Donc les liens seront publics, vous avez juste à aller sur le revenu de base et faire une recherche sur Agora. Et ben, en tout cas, Raphaël, Jérôme, merci d'être venu. On se quitte comme toujours avec un autre monde et je vous dis à la prochaine.
À la prochaine.
Au revoir.
Au revoir.